MCI TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va voir comment la Bible peut répondre à tout un tas de questions de notre vie, de notre quotidien, de choses qu'on vit. La Bible est vivante et elle nous parle et elle est actuelle. Et je suis accompagnée d'Aurélie et Nadine pour parler de ce beau thème. Bonjour,
bonjour
à toutes
Yveline.
Les deux.
Hello Yveline, allô Aurélie.
Alors, on a bien commencé la semaine avec les Dufour, Eric et Rachel Dufour qui étaient avec nous. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez toujours aller revoir le replay. Et puis, on va terminer la semaine entre nous. On aime bien, on suit entre nous. On aime bien avoir des invités, on est bien entre nous. On varie les plaisirs. Et aujourd'hui, on aura une capsule de Stéphanie Rieder qui va répondre à la question sur la théorie de l'évolution. Est-ce qu'elle est prouvée dans son intégralité? Alors, c'est tout un sujet que Stéphanie va traiter. Et elle est experte, pour le coup. Elle est experte dans le sujet. Hein. Si vous ne connaissez pas le background de Stéphanie Rieder, elle a vraiment fait énormément d'études. Elle a été biologiste, je pense. Elle a fait des recherches.
Elle a fait un post-doctorat aussi.
Oui, exactement.
Mm-hmm. Elle a...
Oui, rien de ça.
Post-doctorat.
Non, elle a énormément d'expérience et puis elle va pouvoir nous partager sur ce thème. Et puis, dans la rubrique culture et médias, Nadine, de quoi tu vas nous parler?
Aujourd'hui, Yveline, vu qu'on parle de la Bible et de son actualité pour les défis de la vie quotidienne, je vais présenter la Bible de méditation par les femmes d'Afrique. C'est une Bible qui a été éditée récemment pour les femmes africaines, parlant des défis et des solutions qui se présentent aussi à cette catégorie de personnes. Donc, je vais vous présenter ça tout à l'heure.
Super, c'est original.
C'est très original, j'ai beaucoup aimé.
Vraiment, génial. Bon, on va commencer tout de suite avec toi, Aurélie, dans La Pensée du Jour.
On va commencer avec deux versets bibliques. 2 Timothée 3 au verset 16, la Bible nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et dans le psaume très connu, le psaume 119 au verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Donc lorsqu'on regarde ces deux versets bibliques, on voit en fait qu'en lisant la parole de Dieu, on est capable de trouver des réponses claires, on est capable de trouver de l'instruction, on est capable de trouver des choses qui vont corriger, qui vont nous instruire, on est capable même de trouver une direction, vu que c'est une lampe à nos pieds, on est capable d'avoir des réponses sur notre façon de vivre sur cette terre. Dans l'Ancien Testament, par exemple, si vous lisez, vous passez dans l'Ancien Testament, vous allez voir grosso modo, l'Ancien Testament raconte des récits bibliques très édifiants. On va comprendre la relation de l'homme avec Dieu, avec son peuple. On va comprendre la création. On va comprendre des principes bibliques. Dans les proverbes, on va avoir comme ça une sagesse qui peut aider dans le quotidien. Dans les psaumes, on voit une façon d'adorer Dieu, une façon de vivre sa foi. Et dans le Nouveau Testament, on voit également que Jésus a abordé plusieurs sujets. Il a enseigné sur les béatitudes. Donc, c'est l'attitude à avoir dans notre marche quotidienne, sur la prière, sur le royaume de Dieu, sur la fin des temps, sur la relation avec Dieu, sur l'hypocrisie, le mariage. Bref, on peut citer encore des sujets qui sont évoqués dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. On trouve vraiment des choses très concrètes et des choses pratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si on prend le temps de méditer la parole de Dieu, on va trouver des solutions concrètes aux problèmes pratiques de la vie courante. Et parfois, on a cette tendance à rechercher sur Google, rechercher sur ChatGPT, je ne sais pas, des solutions. Mais si vraiment on commence à se dire, en fait, la Bible me dit que toute l'écriture, elle est utile pour m'instruire, pour m'enseigner. Si j'ai cette question qui me vient dans la tête, je vais chercher la réponse dans la parole de Dieu. Si on commence à réfléchir comme ça, on va voir qu'on aura beaucoup plus de réponses que ce qu'on pense en fait. Il y a aussi des situations qui ne sont pas citées de façon claire dans la Bible. Ce n'est pas nommé dans la Bible. Ça me fait penser à ce verset dans Actes 1 quand les disciples ils demandent à Jésus « Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus leur répond que ce n'est pas à eux en fait, de connaître les moments que le Père a fixés dans son autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas nommées spécifiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un aperçu. Tu vois, il y a un aperçu qu'on peut avoir et une sagesse qui est contenue dans les Écritures qui va nous permettre de discerner. Là, il dit, c'est pas à vous de connaître les temps, mais dans la Bible, on voit quand même qu'on parle de la fin des temps. On voit les choses qui vont arriver dans la fin des temps. Donc, ça veut dire qu'il y a un discernement qui est disponible, même si tu ne connais pas de façon claire. Il y a des orientations que la parole va te donner par rapport à différentes choses. Il y a aussi des situations qui te concernent, qui concernent la volonté de Dieu par rapport à votre vie de façon spécifique, qui ne sont peut-être pas écrits en noir et blanc dans la Bible, mais alors que tu médites la parole de Dieu, le Seigneur va te parler. Je me rappelle quand je voulais savoir ce que je suis appelée à faire, j'étais juste en train de lire un psaume, et dans le psaume, ça disait qu'on parlera de toi en parlant de Dieu à la génération future. Et là, mon cœur a commencé à dire, mais de la même manière que les médias m'avaient dérouté, il faut que dans les médias, on parle de Dieu à la génération future. Et ça m'a animée. C'est comme ça que j'ai su ce que j'étais appelée à faire. J'étais juste en train de lire la parole de Dieu. Il y a eu cet élan qui est monté dans mon cœur. C'est possible parce que Dieu a mis en nous le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait monter des élans comme ça. Alors que vous posez peut-être des questions aujourd'hui, quel que soit le sujet, peut-être qu'il n'y aura pas des réponses toutes faites par rapport à ce que vous voulez, mais il y a le discernement, il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de vous qui vous conduira dans toute la vérité et qui vous donnera des réponses claires.
Amen. Et oui, la Bible, elle est actuelle, elle est vivante, elle n'est pas démodée. Mmh. Et vraiment, des fois, quand on parle avec des plus jeunes, ils vont avoir ce genre de réflexion un petit peu. Oui, mais bon, je comprends quand j'ai la Bible. Alors déjà, en fonction de la version qu'on lit, c'est un vieux français, ça a l'air compliqué, et puis je comprends pas, c'était une autre époque, c'était une autre mentalité, une autre façon de voir les choses, et puis il y a comme une espèce de déconnexion qui se fait, mais alors que comme tu l'as vécu, toi Aurélie, cette Bible est clairement vivante, la parole de Dieu vient et nous percute dans nos actualités, dans nos problématiques actuelles de ce qu'on vit aujourd'hui, et en fait, c'est la puissance de la parole de Dieu, c'est qu'elle n'est jamais démodée, elle est intemporelle. Alors certes, il faut tenir compte du contexte quand on lit un verset, sinon on peut sortir des choses de leur contexte et en faire des doctrines bizarres. On tient compte du contexte, même du contexte historique, mais ça ne veut pas dire que ce qui a été dit il y a X années n'est plus valable aujourd'hui, parce qu'en fait, Dieu ne change pas. Sa façon de penser n'a pas changé, sa façon de voir les choses n'a pas changé, ce qu'il considérait comme péché avant est toujours appelé péché aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour, qui est un verset quand même bien connu. Tu l'as partagé, Aurélie, de Timothée 3,16. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » On voit que la Bible, effectivement, a plusieurs fonctions. Et l'une de ces fonctions, c'est ça va être de corriger, ça va être d'instruire. Et tout ça, c'est valable il y a quelques milliers d'années, c'est valable encore aujourd'hui, de nos jours.
J'ai beaucoup aimé la pensée d'Aurélie, et dans sa pensée, elle parlait de la façon dont même la disposition de cœur qu'on a par rapport à la parole. Si on va vers la parole avec la conscience que la parole répond à nos questions, ça va déjà faire toute la différence. On parlait ce matin rapidement de la familiarité. Et la familiarité fait quoi? La familiarité fait que je ne sais pas que d'une personne, je peux en ressortir. Je ne vois pas la personne à sa juste valeur. Je ne vois pas ce que je peux ressortir de cette personne. Pourquoi? Parce que je suis familier avec cette personne-là. J'ignore des trésors que cette personne a, que d'autres personnes qui ne sont pas familières avec elle vont pouvoir, eux, reconnaître. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on est tellement habitué à la parole et on la regarde tellement comme un livre que spirituel, qu'on a du mal à savoir que oui, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, elle peut aussi être applicable. Et comme Aurélie l'a dit, peut-être que ce n'est pas écrit intelligence artificielle dans la Bible, mais lorsque je suis en train de la lire, alors que la parole dit que la révélation de sa parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence au simple, alors que je suis en train de la lire, il y a un renouvellement aussi de l'intelligence qui m'est donné, même par rapport à des situations qui sont d'actualité, voilà, que les disciples, eux, n'ont pas eu à faire face, alors que moi, je fais face à ces situations-là. Moi, je me rappelle à plusieurs moments, en lisant la parole, tu lis l'histoire de Jacob, tu lis l'histoire de Jésus avec ses disciples, tu as une révélation, tu as une intelligence qui vient par rapport à toi, ta propre vie, par rapport à tes relations interpersonnelles. Tu sais, on parle de l'avortement. Ben, dans la parole de Dieu, c'est pas écrit le mot avortement, mais la pensée de Dieu est là clairement par rapport à la pensée de Dieu, par rapport à la vie, etc. Donc, vraiment, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, ne regardons pas la Bible juste comme un livre spirituel. Et comme tu le dis, on a une intelligence et notre intelligence est renouvelée. Et on sait comment réagir dans les situations de tous les jours, mais vraiment de ne pas se priver de cet outil-là aussi, qui est un outil pour nous aider aussi dans notre quotidien, dans les choses pratiques qu'on n'aurait pas pensé en fait.
Tout à fait. J'ai trois petits exemples de comment la parole de Dieu est vivante et actuelle pour aujourd'hui. Par exemple, si vous avez du mal à dormir, il y a le psaume 4, 9 qui dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Ce verset est loin d'être passé de date. Tu penses peut-être à épouser un incroyant, tu es dans une relation amoureuse avec un incroyant. 2 Corinthiens 6, 14 te parle « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi ? La lumière peut-il être solidaire des ténèbres ?» On a « Faut-il payer les taxes, les impôts en tant qu'enfant de Dieu ?» Jésus a répondu à cette question. Luc 20, 25. « Eh bien, leur dit-il, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Et je pourrais continuer une liste très longue qui nous démontre que oui, la parole de Dieu est vivante, elle est actuelle et le Seigneur veut vous parler aujourd'hui. Donc, je vous invite à peut-être changer de paire de lunettes quand vous lisez la Bible, de lunettes, bien sûr, pas de lunettes physiques, mais de mentalité et de vous attendre à ce que Dieu puisse vous parler vraiment au travers de sa parole et puisse vous percuter. Et on va maintenant écouter Stéphanie Rieder qui va nous dire est-ce que la théorie de l'évolution est prouvée dans son intégralité ?
Bonjour, merci de me recevoir. C'est une joie pour moi de vous parler de science et de la foi. Je sais que vous savez que je suis une femme qui est passionnée de Dieu, mais je suis une femme aussi qui est passionnée de science. Et pendant plusieurs années, souvent, c'était difficile de penser qu'on pouvait concilier la science et la foi. Et c'est vrai que si on regarde dans l'histoire des sciences, hein, d'anciennes découvertes très, très marquantes pour notre histoire, des découvertes scientifiques tentaient d'éliminer Dieu de l'équation. On n'a qu'à penser avec Copernic, par exemple. Les découvertes de Copernic ont permis d'identifier, hein, de réaliser que la Terre n'était pas le centre de l'univers. En fait, que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse. Donc, la Terre, maintenant, avec ces découvertes-là, n'était plus le centre de la création de Dieu. Et par la suite est arrivée les découvertes avec Darwin. Avec ces découvertes-là, encore là, on tentait d'enlever l'homme au centre de la création de Dieu, que, en fait, l'homme était issu du hasard. Mais, récemment, les plus récentes avancées scientifiques qui ont surgi au début du 20e siècle ont entraîné un renversement complet de la pensée. Maintenant, pour tous les scientifiques qui sont honnêtes intellectuellement parlant, il est possible d'admettre la pensée d'un acte de création. Et loin, maintenant, l'idée est complètement, le système de pensée est complètement renversé parce qu'on a encore trois grandes questions d'un point de vue scientifique qui ne sont pas encore expliquées. Et une des explications plausibles est un acte de création de la part d'un Dieu créateur. Et ces trois grandes avancées scientifiques, je vais vous les nommer en quelques instants. La première grande avancée, c'est qu'on a découvert, maintenant nous savons, que l'univers est régi par un réglage d'une extrême précision. Et tout ce réglage-là, basé sur des constantes physiques qui sont si précises que c'est impossible. On se pose encore la question, d'où viennent ces lois naturelles-là? D'où vient ce réglage si précis de notre univers? L'autre chose aussi qu'on n'a pas encore la réponse, c'est qu'on sait aujourd'hui que l'univers a un commencement et qu'elle aura une fin. Et pendant plusieurs années, les scientifiques pensaient que l'univers était infini et qu'il n'y avait pas de commencement. Mais l'idée qu'il y ait un commencement au début de l'univers emmène la pensée, le questionnement, qui a fait ce commencement? Et la troisième avancée scientifique pour laquelle on n'a toujours pas de réponse, c'est l'improbabilité du passage de l'inerte au vivant. En fait, encore aujourd'hui, nous sommes incapables d'expliquer comment est apparue la vie sur la Terre. Et si vous aimez le sujet, je vous encourage à lire un livre qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution ». Et quand ce livre est sorti, j'étais à Paris, sur les Champs-Élysées, et il y avait des grandes affiches qui, partout, vous savez, les Champs-Élysées est une artère prisée dans le monde, connue à travers le monde entier. Et j'étais là et je voyais cette annonce-là disant que Dieu, la science, l'épreuve, la science nouvelle alliée de Dieu. Et par la suite, dans le même mois qui a suivi la sortie de ce livre-là, le Figaro Magazine a titré « Quand la science croit en Dieu, le livre qui bouleverse nos certitudes ». Alors, en ce moment, dans le milieu scientifique, il y a complètement un changement de pensée. Et de plus en plus, la possibilité qu'il y ait un Dieu créateur derrière toutes ces grandes découvertes scientifiques est maintenant avancée comme hypothèse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler en particulier de la théorie de l'évolution. Vous savez, pour nous, les croyants, lorsqu'on parle de théorie de l'évolution, souvent, on va réduire ça à sa plus simple expression et on va dire que Darwin a dit qu'on descendait du singe et ainsi de suite. Et c'est complètement faux. Et aussi, ce que je voudrais, dans les minutes qui me sont allouées, je voudrais qu'on regarde ensemble, est-ce que c'est possible pour un croyant de croire en la théorie de l'évolution? Est-ce que, et peut-être tu t'es fait poser la question à la salle à café, peut-être par tes adolescents, est-ce que la théorie de l'évolution est prouvée? En fait, je vais commencer avec une citation de Richard Dawkins, qui est un évolutionniste bien connu. Et dans cette simple citation, c'est un extrait d'une entrevue qu'il a donnée sur CNN. Et dans ce simple extrait-là, on va voir qu'il y a tellement de mythes, des stéréotypes qui sont véhiculés dans ça. Et j'aimerais, dans les quelques minutes qui suivent, commencer à les briser. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Richard Dawkins a dit « L'évolution est un fait. C'est un fait qui est établi de façon aussi sûre que n'importe quel autre fait que nous avons dans le domaine de la science. Il est tout à fait véridique d'affirmer que l'évidence en faveur de l'évolution est absolument, totalement écrasante. Personne, en y regardant de près, ne pourrait en douter, à moins d'être stupide. Il n'y a pas la moindre évidence en faveur du Dieu judéo-chrétien. » Et c'est exactement ce type de citation-là qui réduit toute cette théorie-là et réduit la pensée qui nous entoure. En premier lieu, je veux le déclarer haut et fort, la théorie de l'évolution n'est pas prouvée encore aujourd'hui dans son entité. Et c'est absolument faux de dire qu'il n'y a aucune évidence en faveur du Dieu judéo-chrétien. Et en plus, c'est complètement mal cité Darwin, parce que Darwin ne s'est jamais dit athée. Et Darwin, au contraire, il a dit qu'il se disait agnostique. Il a dit « Dans mes craintes les plus grandes, je n'ai jamais été aussi fou que de pouvoir nier l'existence de Dieu. » Alors, il faut bien faire attention lorsqu'on parle de cette théorie-là. Et j'aimerais aussi, avant qu'on puisse se faire une opinion sur la théorie, j'aimerais vous poser la question. Parce que des fois, on est pour, on est contre, mais en fait, on est pour ou on est contre quoi? Et en vrai, je vais juste vous définir en quelques instants. Bien sûr, ce n'est pas un cours de biologie, mais avant de prendre position ou de défendre notre argumentation, c'est bon de savoir de quoi on parle. En fait, la théorie de l'évolution, c'est une théorie qui a été issue de multiples observations faites par le biologiste Charles Darwin lors de nombreux voyages qu'il a fait en Amérique du Sud et aux îles Galapagos. Et toutes ces observations-là ont fait l'objet d'un ouvrage publié en 1859 qu'on appelle « De l'origine des espèces ». En quelques phrases, qu'est-ce que la théorie de l'évolution? C'est, selon Darwin, toutes les espèces vivantes, descendent d'un petit ensemble d'ancêtres communs, peut-être un seul. La variation au sein d'une espèce est aléatoire et la survie ou la disparition de chaque organisme dépend de la capacité à s'adapter à l'environnement selon un processus appelé la sélection naturelle. Alors, ce qui est important de retenir dans cette théorie-là, Darwin n'a jamais dit qu'on descendait du singe. Darwin a dit que nous descendions d'un ancêtre commun, d'un être unicellulaire, et on peut parler d'un, peut-être la cellule qu'on connaît aujourd'hui, peut-être la plus simple, d'un protozoaire. Donc, nous ne descendons pas du singe, mais d'une cellule commune qui est un protozoaire, et de là a évolué en invertébrés, les poissons, les amphibiens, les reptiles, jusqu'aux oiseaux et les mammifères. Une chose est certaine dans cette théorie-là, et on ne peut pas douter. J'ai dit que la théorie de l'évolution n'a pas été prouvée dans son intégralité. Par contre, il y a une portion que les scientifiques ont démontré que la sélection naturelle est prouvée d'un point de vue scientifique. Et ça, pas besoin de développer en détail. Je pense que vous savez que les organismes, les animaux, ont la capacité de s'adapter à leur environnement. C'est pourquoi on va retrouver, par exemple, des ours polaires, on va les retrouver bien plus sur les banquises, des banquises sur les glaciers, et les grizzlies dans les forêts. Parce que un grizzly sur une banquise va se faire attaquer et détruire. Pardon. Alors, il est possible, bien sûr, nous avons la capacité de s'adapter à notre environnement. Ce qui cause problème dans la théorie de l'évolution, il y a deux facteurs. Il y a la microévolution, la sélection naturelle est issue d'une capacité génétique à s'adapter qu'on va appeler la microévolution. La macroévolution, c'est-à-dire le passage d'une espèce à une autre, n'a jamais été démontré scientifiquement. Et ça, il faut le dire. Mais ce qui cause encore plus problème, c'est dans cette théorie, Darwin va affirmer que la vie sur Terre est apparue de façon aléatoire selon les conditions environnementales et que, en fait, des molécules inorganiques se sont assemblées d'une façon avec le temps, avec les conditions du milieu et est devenue une cellule. Et aujourd'hui, il est parfaitement, c'est impossible de décrire comment la vie est apparue sur Terre. Et je veux aussi le dire, certaines expériences qu'on peut penser à Urey et Miller, qui ont été réalisées autour des années 1953, ont tenté de reproduire la vie en laboratoire. Et finalement, on s'est aperçu que dans les conditions qu'elles ont été réalisées, cela ne représentait pas les conditions environnementales de l'époque. Donc, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est qu'encore aujourd'hui, la possibilité, la biogénèse de la vie, en fait, l'apparition de la vie sur Terre, il n'y a aucune explication possible. Et nous, comme croyants, quand on parle d'une simple cellule, la cellule, aujourd'hui, nous savons, elle est tellement complexe qu'elle ne peut pas être issue du pur hasard. Malheureusement, je n'ai pas le temps de le développer. Vous savez, j'ai fait mes études de doctorat sur une voie de signalisation qui s'appelle l'apoptose. Et durant toutes mes études de doctorat, j'ai pu étudier, découvrir la beauté d'une simple cellule. Et vous savez, plus vous avancez dans la science, plus on découvre la complexité d'une simple cellule, ou qu'on pense à une cellule maintenant, à un organe, au cerveau. Tous les scientifiques aujourd'hui sont d'accord pour dire qu'il est impossible, qu'il ne puisse pas y avoir un acte de création. Et j'espère que sur ces simples paroles, si on pouvait regarder ensemble la beauté de la nature, la beauté des arbres, la beauté d'un coucher de soleil, vous savez, on reconnaît un créateur à sa création. Et c'est ce qu'est la parole de Dieu, de dire « regardez à la création pour voir le créateur ». Si vous allez, par exemple, dans un musée que vous voyez une toile, un Picasso, vous ne connaissez pas Picasso, mais vous pouvez reconnaître l'artiste. Et c'est exactement ça. Juste, comment on ne peut pas expliquer l'origine de la vie, comment on ne peut pas expliquer toute cette macro-évolution-là, il faut qu'il y ait un concepteur divin derrière cet acte de création. Je le crois de tout mon cœur. Et personnellement, j'aime mieux croire que je suis le fruit d'un Dieu qui m'aime, qui a façonné une destinée pour moi, que de croire que je suis juste un amalgame de molécules. Alors, je vous laisse là-dessus et juste vous dire que, pas seulement moi, mais toutes les dernières avancées scientifiques et même dans les plus hauts niveaux, dans les universités, la possibilité d'un Dieu créateur est maintenant une hypothèse possible.
Merci beaucoup, Stéphanie. Merci de nous éclairer de toute ton intelligence, ta sagesse. j'aurais pu dire à peu près mot pour mot, si je t'avais dit, bien entendu.
Avec ton post-doctorat.
Absolument. Moi, j'ai un pré-doctorat. Vraiment, merci beaucoup Stéphanie pour cette lumière que tu nous apportes dans notre manque de connaissances. Et on va continuer avec toi Nadine, avec notre rubrique Culture et Médias.
Alors aujourd'hui, alors qu'on parle, est-ce que la Bible répond aux questions? C'était d'actualité que je puisse présenter une Bible qui répond aux questions, en tout cas qui veut répondre à des questions d'actualité pour un groupe de personnes en particulier, et dans, en l'occurrence, ce sont les femmes d'Afrique, les femmes africaines. Et je veux vraiment bien faire cette présentation parce qu'il y a vraiment un grand travail qui est derrière cette Bible. Je salue le travail gigantesque et collaboratif de 26 sociétés bibliques africaines qui sont unies pour élaborer cette Bible de méditation qui est destinée aux femmes. Elle dit, ça dit ici que la Bible contient toute une, cette Bible, en fait, contient toute une variété d'outils de lecture qui invitent à réfléchir aux situations et questions spécifiques qui se présente aux femmes chrétiennes africaines. Donc, vraiment, c'est pour toutes les femmes du monde entier. Si vous êtes en Afrique ou même de la diaspora africaine, vous allez trouver dans cette Bible des choses très, très intéressantes. Pourquoi je mets l'accent sur la diaspora africaine ou l'Afrique en particulier? Parce que, justement, dans cette Bible, il y a des petits clins d'œil sur l'Afrique. Ils vont, par exemple, mettre des petits trucs ici, fenêtres sur plusieurs pays, 52 pays qui ont été représentés, et te donnent une petite information sur le pays en question. Là, c'est le Cap-Vert. À votre écran, c'est le Bénin. Et donc, des petites informations comme ça, je trouve ça très, très intéressante. Sinon, le contenu de cette Bible, de quoi s'agit-il de façon concrète? C'est le texte dans la version Bible Nouvelle Français Courant, avec toutes les notes. Donc, c'est vraiment une Bible de méditation. C'est une introduction détaillée à chaque livre de la Bible. C'est 365 méditations qui accompagnent une lecture quotidienne, 52 articles thématiques abordant des sujets de la vie de tous les jours, 51 portraits de femmes de la Bible. Je ne savais pas qu'il y avait autant, d'ailleurs, de femmes. J'ai dit... Pour toutes les conférences de femmes, on est frais là. Il y a des sujets. 55 fenêtres, comme je disais tout à l'heure, sur différents pays africains. Et il y a d'autres outils comme un plan de lecture, des conseils pour lire la Bible, toute la Bible en une année, un tableau qui conduit à la rencontre de 49 femmes de la Bible pour nourrir nos réflexions sur les enjeux que vivent les femmes d'aujourd'hui, une liste des femmes de la Bible, 3 index qui facilitent la recherche et 8 cartes et plans. Et alors, quand je vous disais qu'on parlait des sujets d'actualité, ben voilà, tu vois, ici par exemple, à la fin c'est dans la Bible, mais à la fin, il y a une façon très facile de retrouver le contenu. Ils disent, par exemple, ici, ils ont des articles, si on en parlait, et ils abordent des thèmes comme l'avortement, la belle famille, le caractère, un conjoint non chrétien, le consentement, la croissance spirituelle, la dépression, le deuil, la discrimination, le divorce donné à Dieu, les drogues. Ils en parlent dans la Bible. La fidélité dans le mariage, la famille élargie, les beaux-parents, l'handicap, l'héritage, l'intégrité, le viol, les violences familiales, la solitude, la soumission, la recherche de les réseaux de soutien, la repentance, la polygamie, la monoparentalité, les mutilations génitales féminines. Ça, c'est un sujet très, 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 très pointu. Ils abordent ça ici, les malédictions, l'obéissance, le pardon. Il y a plusieurs sujets. C'est très, très intéressant. Et aussi avec les noms des femmes de la Bible, la référence, la description de ce qu'ils ont vécu. Moi, je l'ai trouvée très, très belle. Et elle est belle aussi à lire. Vous ne voyez pas grand-chose, hein, mais je veux quand même vous le montrer. C'est une très belle Bible. Vous avez la version
Il y a quoi sur
souple.
Le côté, là? Il y a une inscription, non? Quand tu fermes ta Bible.
C'est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. »
Tu peux montrer à l'écran. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. On voit un petit peu.
Mais c'est joli. C'est très, très, très beau. Et donc, ça, c'est la version souple. Et là, c'est rigide. Et c'est ça. Donc, c'est une très, très belle Bible. Si vous voulez vous la procurer, c'est la Bible de méditation par les femmes d'Afrique.
Merci Nadine. Bah oui, on salue vraiment le travail derrière tout ça.
Colossal.
Vraiment, on peut même pas l'imaginer, je pense, mais c'est un très très gros travail. Merci à ces femmes qui ont pris le temps de faire cette Bible vraiment 100% féminine finalement. Bon, les hommes peuvent l'acheter aussi. Merci beaucoup Nadine. Eh bien, de notre côté, on va se retrouver demain, soit un Betsalil. Si vous ignorez qui est Betsalil, l'émission de demain est pour vous. Et si vous le connaissez et qu'il vous inspire, elle est pour vous également. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec les témoignages de Jean-Claude Chipama. Vous savez, il était venu dans Bonjour chez vous. Eh bien, vous allez découvrir son parcours professionnel, comment la main de Dieu a été sur sa vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.